IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Du Trisac.
Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
Du Trisac.
Alain Pronkin est avec nous, spécialiste des religions. Ça fait partie des nouvelles du jour. Alain, bonjour.
Bonjour Benoît.
Alors, je m'en allais te parler tout de suite, mais faisons ça rapidement. Là, je n'ai parlé avec Richard et les présentatrices de nouvelles en Afghanistan qui doivent porter la burqa. C'est juste dans l'axe connu des talibans, là, ces obsédés sexuels islamistes.
Ah oui, c'est un grand retour en arrière. De toute façon, on empêche les filles maintenant d'aller à l'université, puis je pense au secondaire. Maintenant, les femmes doivent porter la burqa quand on est dans la sphère publique, et ceux qui vont être condamnés, ça va être leur mari.
Ah oui,
c'est les maris qui vont être condamnés. Vous avez laissé votre épouse là. Je pense un avertissement, deux avertissements, une amende, de la prison. Donc la pression va revenir immédiatement chez les hommes qui vont dire à leur femme, ben là tu restes à la maison si tu portes pas ta burqa. Et au niveau des présentatrices, ben c'est la même chose. Ils avaient résisté jusqu'à tout récemment, puis on dit non, on va continuer de faire les nouvelles, mais on va porter. Mais c'est pas la burqa avec la grille pour les yeux. On va leur voir quand même les yeux.
Ouh, ça doit être sexy. OK.
Ouais, mais c'est vraiment un grand retour en arrière. Ouais, là, je sais pas comment ça va se déployer dans le futur, là, mais c'est un retour en arrière.
Les talibans devraient apporter la burqa. Ça leur cacherait leur sale gueule d'extrémistes religieux. Ferait du bien.
Ça cache bien aussi les armes. Tu sais, quand ils portent la burqa, ils vont pouvoir avoir leurs armes, ça paraîtra pas.
Coucou. Le recours contre les frères des écoles chrétiennes.
Oui, il y avait eu un dépôt d'une demande de recours collectif pour des agressions sexuelles commises par des frères des écoles chrétiennes, et ça a été déposé en juin 2019. On sait que par la suite, il est arrivé les événements de la pandémie, ce qui a sans doute retardé les procédures, mais maintenant, on sait, ça vient d'être accordé, ça veut dire presque 3 ans plus tard, jour pour jour. Il y a 150 victimes qui ont contacté le bureau d'avocats d'Arsenault, Dufresne et Oui pour s'inscrire au recours collectif. Il y a 17 pages de victimes, oui. Et puis la plupart des événements remontent à avant 1970. Et là, ben là, les procédures vont vraiment s'entamer. J'ai l'impression que c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à négocier pour de vrai. En disant, écoute, si ça vient d'être accordé, je pense que un juge va condamner, ça c'est certain. Mais là, on devrait s'entendre. Comme on a vu dans tous les autres recours collectifs, il y a eu des ententes finales. Donc, ça s'en vient à ce niveau-là.
Bon, tant mieux. Pendant ce temps, le cardinal Zen, qui a 90 ans, qu'est-ce qui lui arrive?
Bien, on sait que le cardinal Zen a été arrêté, on en avait parlé mardi dernier, il a été arrêté la semaine dernière, mais il était accusé de conspiration, de collusion avec des forces étrangères. Et le cardinal Zen, c'est un cardinal qui n'a pas sa langue dans sa poche. Puis ce qui est important de signaler, c'est qu'il est à Hong Kong. Il n'est pas en Chine comme tel. Et à Hong Kong, on sait qu'il y a une répression sévère. On sait que la Chine a repris le contrôle. Et là, aujourd'hui, ben là, les gens s'attendaient, bon, ben ça y est, on commence le procès, puis il va être condamné à une lourde peine. Ben là, ça a changé ce matin. On apprend que la fameuse accusation de conspiration, de collusion avec des forces étrangères, n'est pas maintenu. On y va plutôt sur une accusation de défaut d'enregistrement du fonds, un fonds monétaire qui vient en aide pour les manifestants, auprès de la police. À ce moment-là, ça relève plus de la sécurité nationale. Puis là, il va, s'il est reconnu coupable, c'est 10 000 $ d'amende. À peu près 10 000 $ de Hong Kong, c'est peut-être 5 000, 6 000. Et là, le procès sur ce chef-là, ben là, va commencer le 19 septembre. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'il y a eu des négociations entre la Chine et le Vatican? Parce qu'on sait qu'il y a eu des ententes entre la Chine et le Vatican dans les dernières années. Où là, la Chine et le Vatican disent oui, on est d'accord pour nommer conjointement des évêques. Le cardinal Zen, lui, était contre ça. Lui, c'est un pro-manifestant, mais des manifestants, comme on dit, pour la liberté, là, à Hong Kong. Et il finançait ça, puis il défendait, puis il trouvait des fonds monétaires pour que les gars puissent se payer des, les gars et les filles qui contestaient, des avocats, pardon. Donc, bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a eu des négociations entre Pékin et le Vatican? Sans doute. Le Vatican veut s'entendre avec la Chine. La Chine veut aussi s'entendre d'une certaine façon avec le Vatican, mais ils sont peut-être un petit peu plus indépendants. Puis actuellement, ben, la Chine est complètement fermée au niveau du missionariat, donc on ne peut pas vraiment se rendre en Chine en raison de la pandémie. Hmm. Mais bonne nouvelle pour le cardinal Zen, qui a 90 ans, rappelons-le.
Et l'archevêque de San Francisco.
Oui, ça, c'est important. C'est Monseigneur Salvatore Cordileone, que beaucoup de ses prêtres dans son diocèse contestent en disant qu'il y a des visions très, qu'on va dire, de droite. Eh bien, lui, il a pris une décision. Il a appelé la Mme Nancy Pelosi, qui est la présidente là, du Congrès là, américain, et il lui a dit, écoutez, vous pouvez plus avoir la communion quand vous venez à la messe dans mon diocèse. Tu vas me dire, oui, mais Nancy Pelosi est à Washington. Oui, mais elle est résidente de la Californie, ouais. Bien qu'elle soit née à Baltimore. Donc, elle vit là, et c'est ce qu'on vient de décider pour elle. Moi, je lui dis, ben regarde, Mme Pelosi, allez à votre communion à Washington, ça va être plus facile. Parce que, aux États-Unis, il y a une division chez les évêques. Il y en a qui disent, on peut pas donner la communion aux démocrates qui sont en faveur de l'avortement, non. Comme Mme Pelosi. Mais, t'en as d'autres qui disent, non, on n'a pas à se mêler de politique. Comment pense le pape? Parce que le pape est quand même un élément où on peut se référer, je pense, quand on est catholique. Et le pape, il a rencontré Joe Biden. Et il a dit, « Monsieur Biden, qui est aussi pro-avortement, pas de problème pour votre communion. On va vous la donner. » Parce que nous, à l'Église, on n'est pas là pour faire de la politique. Donc, vous avez droit à votre communion. C'est une question de conscience personnelle. Évidemment, le pape a toujours rappelé qu'il était contre l'avortement. Ça,
l'avortement, c'est politique aux États-Unis.
Oui, voilà. Et là, lui, il dit, on n'a pas à faire de politique.
Okay.
Donc, mais là, il s'agit de voir comment les gens vont s'aligner. Mais c'est clair, parce que tu as une frange dans l'Église catholique américaine qui est très à droite. T'en as qui sont contre encore des vaccins.
Mm-hmm. Ouais, c'est ça.
On a utilisé la science ou la recherche sur des cellules d'embryons avortés. Fait que là, ils disent, on peut pas prendre ça. Mm. Fait que là, on a ça, mais Mme Pelosi, qu'elle aille tout simplement à Washington. Elle habite là, dans le fond, là.
Ouais, ouais. Bon, et aussi les violences sexuelles contre une église protestante américaine.
Oui, parce que souvent on dit bon c'est l'Église catholique qui prenait tout le terrain sur les agressions sexuelles. Eh bien non. Et l'Église protestante américaine, celle du Sud, le Baptist South, il vient d'avoir un rapport d'enquête qui vient d'être publié. Et là, on dit tout simplement, il y a des centaines, je pense qu'il y a 400 pasteurs qui ont agressé sexuellement sur des décennies des personnes, des jeunes aussi, et qu'il y a plusieurs centaines, je pense, des milliers de victimes. Et là, ce qu'on dit, c'est que c'était vraiment un système où on opposait directement à ces gens-là, c'est de l'obstruction et même de l'hostilité par rapport aux victimes. Mm. Ça veut dire que les victimes, c'était « on ne croit pas, c'est que t'en veux à notre argent, puis t'es un ci, t'es un ça », alors que c'est réel. Et là, il s'agit de voir comment l'Église baptiste du Sud, l'Église protestante du Sud américain, le Southern Baptist Convention, va réagir. Mais là, déjà, il y a un rapport qui vient de sortir, qui est un rapport indépendant. C'est pas encore les policiers qui sont là-dedans. Peut-être que les policiers vont arriver plus tard, mais c'est déjà une commande qu'ils ont faite, l'Église a faite, à un comité indépendant. Mais c'est gros et c'est majeur. On parle de... aux États-Unis, ça fait la une, là, en ce moment.
Ah oui, hein. Et la secte homme, toujours aux États-Unis?
Oui, toujours aux États-Unis, mais c'est une secte chinoise. Je sais pas si tu te souviens du gaz sarin dans le métro. Il y avait 13 personnes qui étaient mortes en 95. Mm. Et aux États-Unis, on avait immédiatement placé cette liste, cette secte-là, la secte AUM, comme étant une organisation terroriste étrangère. Eh bien, aux États-Unis, on a levé ça. Évidemment, au Japon, on dit, qu'est-ce que vous avez fait? Il y a eu des morts. Ils ont tué des avocats. Ils ont tué des personnes. Il y a eu deux attentats au gaz sarin. Vous faites quoi? Ben, les États-Unis répondent, ben, Achara Foucault, le gourou, ben, il a été exécuté en 2018 avec 6 autres personnes. Puis, on pense plus qu'ils sont violents. Puis, ils ont été rebaptisés Alpha ou Alphette en 1999. Ils ont aujourd'hui, ben, à peu près 1200 membres. Puis, il n'y a plus de violence. Donc, on l'a levé. Mais pas au Japon. Au Japon, ils sont toujours sur la liste des organisations terroristes ou violentes. Mais c'est juste pour te dire que, comme on voit aux États-Unis, on ratisse large. Puis là, on dit, ben écoute, il est mort en 2018, là, ça fait 4 ans. Là, fait qu'on on va soulever ça. Mais c'est quand même, ça aussi, c'est une nouvelle importante, c'est que les sectes, même s'il y a eu des éléments de violence importants, peuvent être réintégrés dans la société. Alors, bon. C'est la volonté américaine, d'après moi, c'est toujours la même chose. C'est, on s'accorde avec tout le monde de la planète.
Italie, church, tout pédocriminalité, c'est le thème du jour, hein?
Oui, c'est le thème du jour. On va y aller rapidement. C'est qu'aux États-Unis, on va nommer un nouveau président de la conférence des évêques italiens. Et en Italie, le scandale des prêtres pédophiles n'est pas encore arrivé. Là. Il n'y a pas eu encore d'enquête. Et là, est-ce qu'on va nommer quelqu'un qui est en faveur d'une enquête ou contre une enquête? À date, en Italie, c'est le pape qui décide ultimement du choix du président de la conférence. Et on pense que dans les choix du pape, ça va être un qui va être favorable à cette enquête-là. Mais en Italie, ça traîne. Écoute, en Espagne, c'est commencé. Je n'ai pas besoin de te dire tous les pays du monde, il y a eu des enquêtes. Et là, on en veut une en Italie. Et il y a vraiment un mouvement. Au lieu d'être MeToo, c'est Italy Church Too.
Ah oui.
Comme dans MeToo. Et on veut aller au fond des choses. Et c'est le pape, quand tu vas prendre sa décision, et ça va se faire 7 semaines.
Mais c'est sans fin, hein? À chaque fois, là, c'est, il y a toujours des nouvelles de pédophiles, de pognes de cul, de,
tu sais,
Et
puis t'en as pas juste chez les catholiques. Là,
non,
on a un exemple des protestants aux États-Unis. T'en as dans tous les mouvements religieux. On dirait qu'il y a une fixation là-dessus.
Ouais.
Mais lâcher les enfants, comme on dit.
Oui, sacré patience aux enfants. Ouais. En Égypte, Alain?
Ah, en Égypte, il y a une fatwa. Est-ce qu'un chien est un animal pur ou non? Et le cochon? Et là, il y a un professeur là-bas en Égypte qui a dit, ce sont des animaux purs. Hey, dites un cochon, c'est un animal pur. Mais on n'a pas le droit d'en manger. Et là, ça a dégénéré dans les pays musulmans en disant, c'est qui cet imam-là qui s'appelle Karima de dire ça? Pour eux. Puis lui, il dit toujours, non, Dieu ne peut pas créer de l'impureté. Fait que le porc est pur, mais on peut pas le consommer parce que sa viande est halal. Puis là, le chien, c'est parti sur les problèmes de l'impureté du chien par rapport à sa salive. Ils disent que la salive serait impure, mais lui, il dit non, ça peut pas être impur parce que c'est Dieu qui l'a créé. Et là, on est parti. Mais il dit, on peut avoir des chiens. Bon, en tout cas, on va voir, parce qu'il dit l'homme de tout temps a eu des chiens pour se défendre. Oui, mais là, il y en a qui disent, oui, mais il couchait dehors, il couchait pas dans la maison. Et c'est parti. Lors de se mettre le pied dans l'engrenage, ou la main dans l'engrenage qui en finit plus, mais je pense que son erreur, c'est de dire que le cochon est un animal pur dans l'islam. Je pense que ça, il va le regretter.
Ça, ben, pourquoi? Il y a peut-être raison, c'est peut-être le.
Il y a peut-être raison, mais je veux dire, la polémique que ça fait sur les réseaux sociaux.
Des fois, la vérité peut choquer, là, tu sais. Faut être capable de débattre de tous ces sujets-là.
Oui.
Surtout sur la qualité du bacon.
Oui.
C'est quand même essentiel et fondamental dans notre.
Très important, le bacon. Justement, j'en ai dans le frigo chez nous, puis je vais t'inviter demain matin, Benoît, du bon bacon.
Ouais, OK, parfait. Des nouvelles de Creflo Dollar, lui, il est drôle.
Oui, lui, il est drôle. On s'en souviendra, puis on en a parlé souvent. Creflo Dollar, c'est le pasteur, le télévangéliste, qui voulait avoir son jet à 65 millions.
Ben
et
oui.
Il a demandé des collectes pour ça. Ben Benoît, il l'a pas encore.
Oh.
Mais là, on a appris, parce qu'il y a une nouvelle qui le concerne, maintenant, il n'est plus qu'au 17e rang des plus fortunés chez les preachers américains. Il ne vaut plus que 27 millions, Benoît. Il y a sa maison qui vaut 2,5 millions à Manhattan. Il y en a une de 1 million à Atlanta. Il y a son vieux jet privé qui n'a pas changé. Et il y a ses deux Rolls-Royce.
Fait
qu'il est au 17e rang, 27 millions. Et le premier, c'est Edir Macedo, qui est un Brésilien. Et lui, vaut 1,1 milliard.
Wow.
Quand même pas pire pour être un preacher.
Hey, ça, c'est des discours, ça.
Ça, c'est des discours.
Ouais. Là, ça vaut la peine. Là. Des discours en or. Bon,
ouais,
ben, parfait.
Lui, il a sa chaîne de télévision.
Ça marche, ses affaires. Lance-toi là-dedans, Alain. Pense-y, là. Une couple de sermons, de discours, puis tu demandes de l'aide pour t'acheter une nouvelle voiture.
Non, un jet.
Un jet. Je pense pas assez big, hein. Bon, ouais, parfait. Alain Pronkin, merci. À la prochaine.
Bonne journée, Benoît.
Salut.